Voilà, bonsoir. Dernier round avant Noël, avant de reprendre la fois prochaine pour deux derniers sujets. Je ne vais pas vous lire le texte de la Samaritaine, je crois que vous la connaissez bien. Je voudrais introduire la question que je vais poser à ce texte. En prenant la position qui est non pas la mienne, mais celle d'un lecteur postmoderne qui, en lisant ce texte de cette femme, on pourrait dire voilà une femme qui invente sa propre manière de faire, famille, libre par rapport à toute alliance instituée, elle évolue au sein d'une constellation concubinaire pluri-recomposée. Oui. Donc, si vous voulez, je voudrais étudier aujourd'hui la question des nouveaux modèles familiaux qui sont, comme nous l'avons vu, ni nouveaux, ni des modèles, ni des familles. Je voudrais l'étudier par rapport à l'attitude que le Christ pourrait avoir parmi l'un de cette configuration. Et l'itinéraire de cette femme sans mari pourrait nous aider à mieux comprendre comment le Christ se situe face à ce genre de situation. D'accord ? Bon, c'est évidemment un événement singulier, mais dans la singularité de cet événement est révélé quelque chose d'universel. Avec son compagnon du moment, en effet, elle a choisi de vivre selon un des nombreux modèles familiaux promus en ce début de XXIe siècle. Comme nous l'avons vu, au cours de ces dernières décennies, la catégorie de famille a été conférée à des réalités très diverses. À un homme et une femme unis en dehors des liens du mariage, à une femme seule ou à un homme seul avec charge d'enfants, à deux personnes de même sexe, avant ou sans enfants, ou encore à d'autres combinaisons construites à partir des identités de genre. Souvenez qu'on avait vu cela. Hein ? Subissant un élargissement considérable, le concept de famille ne serait donc plus réservé à la communauté d'amour et de vie formée par un homme et une femme, engagés l'un envers l'autre dans une alliance une et indissoluble, voulant engendrer des enfants l'un par l'autre, et veiller ensemble à l'éducation de ceux-ci. Selon cette perspective, il ne faudrait plus parler de la famille au singulier, mais des familles au pluriel. Alors, dans le cadre de cette étude, je voudrais, non pas, comme je l'ai fait il y a deux ou trois cours, analyser les choses d'un point de vue structurel et philosophique, mais prendre un événement singulier de la façon dont le Christ rentre en contact avec ce genre de situation. Alors, le point 2, après la problématique rapidement esquissée, évidemment, c'est clair que le texte est infiniment plus riche que... Enfin, ça ne sert à rien de le dire, mais ça va peut-être mieux en le disant. Est infiniment plus riche que ce que je ne le dis. Hein. Donc, c'est simplement, j'aborde le texte à partir d'une question, mais il pose des tas d'autres questions. J'aborde une question. Tout d'abord, la question du désir, l'eau et le jeu des désirs. Donc, c'est du verset 4 à 15. Donc vous connaissez l'histoire. Une première chose qui est étonnante, c'est que le Christ se présente comme un voyageur assoiffé. La soif étant le symbole le plus fort du désir. Le soleil est au plus haut dans le ciel, nous sommes à la sixième heure, dit le texte, dans la chaleur étouffante de midi. Fatigué, l'homme se repose sur la source ou auprès d'elle. Donc, nous avons un homme dans lequel se révèle la plénitude de la divinité, mais de façon cachée, qui est en position de faiblesse, de fragilité. Il est midi, il a soif. Et il se trouve près d'un puits qui a une histoire extrêmement ancienne, antique. Arrive une femme, dit le verset 7, qui lui demande « Donne-moi à boire ». Pardon, Jésus lui demande « Donne-moi à boire ». Dans le contexte sémitique de l'époque, demander à boire à une femme auprès d'un puits, c'est lourd en signification. C'est une manière de connaître ses dispositions intérieures. Il s'agit d'une sorte de signal codé, hein, de l'époque, ce sont les usages sociaux, serais-tu d'accord d'apaiser ma soif en me partageant l'eau, et donc la vie, l'eau est toujours liée à la vie, que tu bois toi-même? D'un point de vue historique, Isaac, Jacob et Moïse ont rencontré leur future épouse auprès d'un puits. Oui. Donc on est vraiment à travers toute une série de détails, je vais rapidement, mais on est vraiment en contexte d'alliance. C'est assez audacieux de la part de Jésus de poser cette question à cette femme. Jésus qui était présenté un peu avant comme époux. Donc on est vraiment dans une symbolique nuptiale. Et tout au long de ce récit, il y a, comme en filigrane, cette symbolique nuptiale. Et Jésus a cette soif qui éclatera au Golgotha quand il dira « J'ai soif hein. ». C'est une terre qui est une terre elle-même de grands désirs. En fait, Sichem ou Sicar, c'est sans doute Naplouse aujourd'hui, est un lieu vieux comme le monde. Voilà, c'est un des endroits les plus anciens de l'histoire de l'humanité. Il symbolise toute une série de choses. Il y a terriblement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements qui se sont passés là. Voilà, c'est un lieu aussi de déchirure, et notamment un lieu où, suite au grand schisme, vous savez que le fait pour Israël de se séparer en deux avec le peuple du Nord et les tribus du Sud, le fait de se séparer en deux est terrifiant.
Terrifiant, pourquoi? Parce que ils sont... Vous m'entendez mieux comme ça dans le temps. C'est mieux? Ou c'est moins bien? C'est mieux? Leur mission, c'est de témoigner de l'unité de Dieu, et donc d'être séparés, il y a quelque chose qui est à contresens. Et les... bon voilà, après, il y a eu le grand roi David, et puis il y a eu Salomon, et puis après Salomon, ils se sont divisés, ils ont commencé à fonder un nouveau clergé, un nouveau lieu de culte, il y a Jérusalem et Sichem, les deux endroits. Or, il y avait là, dit le texte, une source. Le puits est profond, selon l'exégèse de Marie-Joseph Lagrange, il est même un des plus profonds, sinon le plus profond de la Palestine, il mesurerait 32 mètres. Même lorsqu'il y a beaucoup d'eau, elle est encore à une dizaine de mètres au-dessous de la margelle. C'est un puits d'une profondeur abyssale. Alors, cette région est dotée d'une source présentée par Saint Jean comme une terre transmise par Jacob à son fils Joseph. C'est comme ça qu'au verset 4, et aujourd'hui, Jésus, fils de Joseph, comme il était présenté au verset Jean 1, 45, rentre en quelque sorte dans son héritage. Tiens, j'ai appris ça aujourd'hui en regardant de plus près le texte de l'Évangile, si j'ai bien lu le grand-père paternel de Jésus, vous savez comment il s'appelait ? Jacob. Jacob, oui. Jacob, Joseph. Donc, nous sommes dans... Évidemment, ce n'est pas un hasard. Hein? Alors, face à la demande de cet homme fatigué, la femme est stupéfaite et on la comprend. Un juif ne s'adresse jamais à un habitant de Samarie. Encore moins pour lui demander de l'eau. Au lieu de tourner le dos, elle rentre en relation avec lui. Comment toi, qui es juif, à moi qui suis? Donc elle rentre en dialogue. Alors commence une série de quiproquos qui sont typiques de l'évangile jaunique, c'est-à-dire autour de la soif et de l'eau, on vit chaque fois des significations différentes. Il y a des quiproquos qui sont là pour... moi j'aime bien utiliser ça, l'expression « un ascenseur analogique ». C'est-à-dire que voilà, le Christ fait cheminer la femme dans son désir. lui fait cheminer dans la vérité de son désir. Alors, vous connaissez ce magnifique échange, hein, je ne travaille pas. Bref, sur cette terre de la soif, sur cette terre marquée par beaucoup de tourments, vous vous souvenez aussi que nous avions vu avec Joseph et ses frères que c'était le lieu où il y avait eu un terrible massacre de la part des fils de Jacob, hein, au point tel où c'est un lieu où Jacob dira, vous avez, c'est une terre qui a fait mon malheur. Donc c'est une terre vraiment chaotique. Et c'est sur cette terre-là que Jésus rencontre cette femme qui est fille d'un peuple chaotique qui et entre dans un contexte d'alliance et commence à discuter avec elle autour de l'eau et du désir. Alors je passe maintenant, je vais m'arrêter un peu plus longtemps à cela, c'est peut-être le moins intéressant, mais pour notre sujet ça nous intéresse plus, c'est le point C, l'irruption des hommes-maris. Alors, donc le dialogue est bien parti, ça se passe bien, voilà. J'étais frappé aussi de voir que donc Jésus se présente dans une dynamique d'épousailles et en même temps, non pas du haut d'un destrier blanc, mais étant assis, il la regarde de bas en haut, donc dans une, sans doute vraisemblablement, dans une attitude d'humilité, enfin, d'humilité, oui. Et donc ça a l'air de bien parti, et puis tout d'un coup, alors que le dialogue semble sur le point d'aboutir, voilà que Jésus dit brusquement à la femme, au verset 16, « Pars, interpelle ton homme et viens ici même. Va, cherche et reviens. » Va, cherche et reviens. Pourquoi cette rupture dans le fil de la rencontre? À quelle logique invisible obéit-elle? On avait eu quelque chose d'assez poétique, assez ouvert, et tout d'un coup, pouf, sur la question, il y a une vérité qui est demandée sur son homme. Selon certaines exégèses, la Samaritaine serait une femme légère et incrédule, ne se préoccupant guère de la vie éternelle, au verset 14. Elle aurait demandé de l'eau uniquement pour éviter une tâche quotidienne pénible. Personnellement, je ne pense pas cela, parce que quand on lit la première partie, il y a tellement de finesse chez la Samaritaine, et en même temps, il y a un aspect aussi un peu de jeu. Hein. C'est aussi la mentalité sémitique. Hein. On discute, et puis on fait évoluer les choses. Donc, il me semble, pour ma part, que Jésus invite cette femme à franchir une étape importante, parce que la faisant cheminer dans ce qu'elle porte comme désir profond, désir d'alliance extrêmement profond, il l'invite à faire la vérité sur son désir d'alliance matrimoniale. Soudain, mise en face de son homme, elle doit affronter la réalité de son désir et la satisfaction actuelle de celui-ci. « Va, lui dit Jésus, aie un contact avec ton homme, puis reviens ici, même près de cette source. » Avec l'homme en question, peut-être, cela dépendra de leur attitude à tous les deux. Donc Jésus prend là un risque de ne pas la voir revenir. En tout cas, si elle veut poursuivre sa quête de l'eau jaillissante en vie éternelle, la Samaritaine ne peut plus désormais éviter cette confrontation. En ordonnant une telle démarche, Jésus prend le risque donc qu'elle s'en aille sans demander son reste. Cependant, la Samaritaine lui obéit sans hésitation et réalise le trajet demandé à la vitesse de la lumière en rétorquant « Je n'ai pas d'homme ». Je n'ai pas d'homme. On pourrait dire est-ce que c'est une attitude vraiment pastorale du Christ de tout d'un coup faire intervenir une vérité morale aussi forte, hein, au milieu d'un discours éminemment pastoral? Je reviendrai sur cette question qui, à mon avis, est absolument cruciale dans le cadre notamment de cette année de la miséricorde et sur l'injonction extrêmement pastorale auquel a invité le dernier synode et qui est, comme on l'a dit et redit, mais qui mérite d'en être bien conscient, la vérité et la vérité morale fait partie de la miséricorde. Il y a parfois une tendance à considérer la loi et la vérité morale comme étant un obstacle à la miséricorde. C'est exactement l'inverse. Ne pas donner de vérité morale, c'est empêcher la personne de s'approcher de la source jaillissante en vie éternelle. Alors toute la question, évidemment, c'est la façon dont on l'aborde. Jésus n'a pas commencé par cette vérité morale, évidemment. Mais à un moment donné, et je reviendrai là-dessus, mais je pense que ce serait une fausse conception de la miséricorde que de la voir de façon antithétique avec la loi morale. Même si ça nous arrangeait bien jusqu'à un certain point. La miséricorde n'est pas comparable à une conception sécularisée de la tolérance ou de l'indifférence, où chacun fait finalement ce qu'il veut, etc. Et où le pasteur s'adapterait à la hauteur et à l'opinion de la personne qu'il a en face de lui. Donc là, Jésus, tout d'un coup, face à cette femme, lui parle de sa situation matrimoniale qui est en fait extrêmement douloureuse. Et ce qu'il y a de bouleversant, c'est que la femme répond avec une très grande loyauté intérieure. Je n'ai pas d'homme. Verset 17. Je n'ai pas d'homme. Jésus lui répond, tu dis bien, d'homme je n'ai pas, car cinq hommes tu as eu, et maintenant celui que tu as n'est pas ton homme. Ceci, tu as dit vrai. Verset 18. 17, 18. Quelle attitude pastorale, quelle miséricorde. Enfin, selon une conception trop rapide de la miséricorde, on pourrait dire que c'est intolérable. Hein. Et pourtant, il y a là une lumière qui est donnée sur sa propre vie, une vérité douloureuse qui est professée de façon sobre, tranchante, avec une certaine rudesse. Mais vous savez que la rudesse n'est pas synonyme toujours de violence. Il y a parfois un raffinement et des circonvolutions qui sont extrêmement violents. Je pense par exemple à la parole du Baptiste, Jean-Baptiste, qui dit à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Une sorte de rudesse, mais pas face à cette parole tranchante, prophétique, Hérode et toute sa famille sera obligée de se déterminer. Voyez? Donc, moi je suis un grand partisan de la douceur. Hein. Donc, il faut pouvoir amener les choses délicatement. Mais voilà, à un certain moment, il faut pouvoir dire, ah, le Christ ici dit les choses. Dit les choses. Évidemment, encore une fois, dans tout un esprit, il y a tout eu un dialogue qu'on dirait aujourd'hui pastoral, mais qui a précédé, où Jésus s'est présenté comme un pauvre près de cette femme de Samarie. Vous savez que la sœur spirituelle de Mère Teresa était belge. Si vous saviez ça. Et donc, donc chaque sœur de missionnaire a une consœur, si je peux dire, qui offre ses souffrances pour elle. Et elle était belge, et c'est une femme qui souffrait beaucoup, qui marchait avec deux cannes. Et lorsqu'elle arrivait, donc elle avait un apostolat auprès des femmes qui se prostituaient dans le port d'Anvers. Quand elle venait, elle se présentait non pas de façon conquérante, mais elle se faisait aider par cette femme qui était prévenante vis-à-vis d'elle. Et alors, étant dans une attitude d'aide et de soif et de besoin vis-à-vis de ces femmes, eh bien, elle pouvait après entrer en dialogue et en alliance. Donc, nous avons un processus analogue ici. Et donc, cette vérité morale vient, cette vérité éthique vient à l'intérieur d'un dialogue, d'une présence qui dépasse bien les a priori culturels, et en contexte d'alliance. La vérité qu'il a lui-même comparée à de l'eau au chapitre précédent, en 3.5, n'est proférée non pas pour décourager ou pour écraser cette femme de Samarie, énoncée de façon pragmatique et sobre, elle entend l'aider à voir clair dans ses relations avec autrui. Au service d'une libération, d'une maturation, d'une croissance intérieure, elle résonne au moment opportun aux oreilles de son cœur. Je reprends une expression de Collium et Spes. Résonne au moment opportun aux oreilles de son cœur. Alors, je me suis imaginé un critique postmoderne qui lirait ce texte. D'accord. Ce n'est pas mon opinion, mais je me suis mis dans la peau d'un auteur. Un sociologue de sensibilité postmoderne ne manquerait pas d'admirer la rationalité liquide avec laquelle Jésus procède. C'est une façon aujourd'hui de déconstruire la rationalité en disant que le principe de non-contradiction est tributaire de rapport de pouvoir, etc., et qu'il faut qu'on retrouve une certaine forme de rationalité, d'être liquide, etc. Bon, je vous passe les détails. Donc il y a une certaine rationalité liquide, hein, puisque avec les blancs du discours, avec le seau, comme il procède avec l'eau et le puits, c'est magnifique, et les désirs. Le sociologue de sensibilité postmoderne apprécierait aussi la force transgressive du Christ par rapport à l'ordre patriarcal établi, tant sur le plan social que culturel et religieux. Il saluerait également son respect pour la liberté de cette femme qui évolue dans une société métissée. Je suis amusé un peu là. Par ailleurs, il jetterait un regard critique sur les éléments qu'il estimerait discriminatoires. Jésus, conscience éclairée de son temps, juge la situation de cette femme exclusivement à partir du modèle familial traditionnel, hétérosexuel, naturel, classique et bourgeois avant l'heure. Il absolutise cette configuration particulière et les stéréotypes de genre qui lui sont attachés. Avec un a priori plurimillénaire, il en fait la norme suprême à partir de laquelle il marginalise les autres modèles. En imposant à la Samaritaine cette pseudo-vérité « en cela tu dis vrai », il renvoie à la pathologie et à l'immoralité sa famille concubinée recomposée et avec celle-ci les familles monoparentales, homosexuelles et tant d'autres. Mais ce sont des discours qu'on entend. Hein. Je ne pense pas. Donc d'un côté, un sociologue postmoderne verrait dans le Christ quelqu'un d'exceptionnel. D'un autre côté, il serait toujours victime des stéréotypes de genre. De classe et de pouvoir, etc. Pourquoi une telle intolérance dissimulée derrière tant de bienveillance? Pourquoi cette attitude fondamentalement du Christ hétérosexiste, différentialiste et hégémonique? Excusez-moi, mais l'Évangile est là pour aussi accueillir ce genre de critique. Hein. À moins que par ses interventions à droite, Jésus ne tente de libérer cette femme de la domination dont elle est victime. Tu dis vrai, tu n'as pas de mari et tu as déjà vécu sous l'oppression de 5 hommes. À présent, tu as réussi à créer une nouvelle manière de vivre et je m'en réjouis pour toi. Pour répondre à ces critiques, demeurons à l'intérieur de l'événement de Sicar, sans nous engager dans un débat abstrait. Aux abords d'un puits, le Christ s'adresse à une femme de Samarie en se référant au mariage tel qu'il est décrit dans les premiers chapitres du livre de la Genèse. Il s'agit d'un fait historique à accueillir par le lecteur. Un fait. Aucun doute ne plane à ce sujet, à condition de ne pas isoler ces trois versets de l'ensemble de l'Évangile et puis précisément du contexte dans lequel il est. Pour le Christ à Sicar, il n'existe pas plusieurs « modèles familiaux » entre guillemets, mais une personne qui peine, erre et souffre dans ses désirs d'élaborer une alliance matrimoniale. Je redis. Donc pour le Christ, aujourd'hui, quand on entend tout ce qui sort à la télévision et ailleurs, sur les réseaux sociaux, on peut se dire, ben voilà, on s'élargit, on ouvre nos horizons, etc. Force est de constater que le Christ, en qui se révèle vraiment Dieu lui-même, et le dessein de Dieu, le projet de son cœur demeure d'âge en âge, il se réfère face à cette femme au mariage tel qu'il est décrit dans Genèse, chapitre 2 et 3. Et ça, c'est quelque chose que, évidemment, qui est un peu qui est quasi inaudible pour certaines formes de société aujourd'hui ou certains milieux. Mais voilà, On pourrait le montrer d'un point de vue philosophique, même si c'est un peu plus compliqué, mais ici, d'un point de vue strictement théologique et révélé, dans la foi, ce qui permet de savoir ce que c'est que le mariage et la famille, c'est vraiment un homme et une femme qui s'engagent pour toute la vie ensemble, à s'aimer fidèlement et avoir des enfants l'un avec l'autre, l'un par l'autre. Oui. Et c'est par rapport à ce modèle, enfin ce modèle-là, par rapport à cette réalité-là que le Christ réfère tout le reste. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas la Samaritaine, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas envie de rentrer en alliance avec elle, ça n'a pas envie, ça ne veut pas dire que, etc., etc. Mais c'est très important de voir que c'est une réalité qui transcende les époques et qui transcende. C'est pas parce que en ce début du XXIe siècle, il y a d'autres, enfin, que la société met en une certaine forme de société, parce que pas toute la société, mais met en valeur. Ou en tout cas, c'est pas mettre en valeur, mais revendique le nom de mariage et de famille pour d'autres réalités qui ne sont en fait pas des mariages et pas des familles, que voilà, il faut qu'on perde cette référence que le Christ lui-même donne. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces modèles entre guillemets familiaux? En fait, des gens qui peinent à établir une alliance matrimoniale, des gens en souffrance, en fait, c'est cela. C'est pour ça que c'est un sujet tellement délicat et avec lequel il faut être très bon. C'est parce qu'en fait, ce sont des personnes qui peinent à établir des alliances matrimoniales réelles. Et donc, ils essaient de désersatz, si vous voulez, ils miment. Moi, je veux bien qu'on appelle deux personnes de même sexe un couple, mais un couple, normalement, chez les animaux, c'est un mâle et une femelle, chez les humains, c'est un homme et une femme. Donc voilà, il y a une sorte de. Vous voyez, le lien homme-femme fondamental reste quand même la grande norme, même si il y a une tendance à vouloir en faire un modèle parmi d'autres, donc de relativiser ce mariage et la famille. Ça, c'est vraiment la tendance aujourd'hui, c'est à le relativiser, et même à le soupçonner de beaucoup de domination et beaucoup de. Donc, non seulement de le marginaliser, de le relativiser, mais aussi de le marginaliser et de le surveiller plus que les autres. Alors, comment est-ce que réagit la femme au verset 19? La Samaritaine voit en lui un prophète. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète en fait? Un prophète, c'est celui qui rappelle la loi d'alliance et de vie dans une situation concrète. C'est le prophète. Ce point de vue-là, le pape François est prophétique. Il rappelle la loi de vie et d'alliance dans les situations concrètes. Ici, la loi de vie et d'alliance, c'est tu ne commettras pas d'adultère. En Exode 20, 14, Deutéronome 5, 17. Voilà. Il rappelle cette loi fondamentale. Il le dit avec délicatesse, mais avec netteté. Cette femme donc discerne en Jésus un homme qui l'aide à lire sa propre existence dans cette lumière. C'est ça, un prophète. Bon, ce n'est pas toujours confortable, un prophète. C'est pour ça qu'on les tue, d'ailleurs. Mais ce qu'il y a de bouleversant chez cette femme, c'est qu'elle est disponible intérieurement. Elle accueille la dénonciation prophétique du Christ. Il s'agit vraiment, on est dans la veine prophétique d'une dénonciation, comme Jean-Baptiste qui dénonçait Hérode, qui, loin de l'anéantir, lui ouvre des horizons nouveaux. En effet, bien que menant une certaine vie commune avec un homme, la femme de Samarie confesse qu'elle est sans mari. Sans lien conjugal, je vis en concubinage. S'agit-elle, alors là, ce que je vais dire maintenant, c'est moi qui me suis posé des questions, d'accord? Donc vous en faites ce que vous voulez. Ah. Mais c'est intéressant de. Le texte est là aussi pour nous. Pas pour nous faire rêver, mais pour nous ouvrir des horizons. Hein. Mais je me suis dit, mais quel est le quotidien de cette femme? S'agit-elle pour elle de cette vie en concubinage, d'un choix délibéré? est-elle désespérément amoureuse de quelqu'un qui ne veut pas ou ne peut pas se marier avec elle? Subit-elle de sa part une pression sournoise et manipulatrice? À moins que ce ne soit elle qui ait mis la main sur cet homme, marié ou non avec une autre femme. Par ailleurs, il se peut aussi qu'elle soit prise dans le tourbillon qu'on dirait aujourd'hui d'une vie existentialiste et relativement indépendante, marquée par une liberté peu responsable et une certaine recherche de plaisir. Un détail du texte indique qu'elle semble être tenue à l'écart des gens honnêtes. Vous connaissez peut-être ce détail-là. C'est l'heure de midi. À midi, c'est l'heure la plus chaude, c'est pas à ce moment-là qu'on va chercher l'eau. Sauf si on est exclu. Sauf si on choisit délibérément cette heure-là parce qu'on sait qu'on ne rencontrera personne. Ou des gens qui sont dans la même situation que soi-même. Donc, le fait que cette femme, dans ce pays-là, aille chercher à midi est un indice, c'est pas la preuve, mais un indice qu'elle semble être mise sur le côté. Il est possible qu'elle soit considérée comme une femme de mauvaise vie, voire comme une prostituée. Alors, voilà, je me suis mis à essayer de... c'est toujours beau de pouvoir essayer de, avec délicatesse, mais d'essayer de comprendre ce que pourrait vivre cette femme. On pourrait aussi imaginer qu'elle souffre d'une forme de perte de l'élan intérieur, d'amertume, de dégoût de la vie, de résignation, de mésestime d'elle-même, de compromission de différents ordres, de vagabondage, de désespérance. Peut-être les blessures de l'existence ont-elles enfoui chez elle l'aspiration au mariage à un niveau de profondeur tel qu'il est difficile d'y avoir accès pour l'instant, et qu'elle évite volontairement ce genre d'aventure? Doute-t-elle de tout et de tous, en premier lieu d'elle-même et de son compagnon du moment? Peut-elle vraiment se fier à celui-ci, et plus largement, à n'importe quel homme? Son passé est sans doute chargé de bien déceptions de ce domaine. Quelque chose qui m'a frappé, moi, il y a... femme peut être parfois très déçue des hommes et donc se protéger. Elle a eu successivement 5 hommes. Bon, peut-être qu'elle était mariée avec l'un ou l'autre qui sont morts ou quoi, on n'en sait rien, mais qu'est-ce que ça veut dire cela? Elle a peut-être été répudiée, elle a peut-être, on ne sait pas, donc il faut rester sobre. Existe-t-il un lien entre ces 5 hommes et les 5 populations païennes déportées sur la terre de Sichem avec leurs 5 séries de dieux Baal? Vous savez que donc les Samaritains, c'est une population métissée, comme je disais tout à l'heure, et viennent composée de 5 colons, 5 populations de colons, qui ont emporté chacun leurs 5 dieux, hein, leurs 5 divinités. D'ailleurs, pour ça, vu que c'était une population mélangée, c'est pour ça que les Juifs ne voulaient pas avoir de contact avec les Samaritains. On ne veut pas être lié avec ces gens-là. Je ne dis ça sans aucune critique, parce que Israël avait comme objectif de témoigner du Dieu un, et donc il était normal qu'il exige la séparation avec les gens qui ne vivaient pas selon cette façon de vivre, d'accord. Donc, ne croyons pas que ces coutumes étaient des mauvaises coutumes, tu vois. Elles sont devenues mauvaises si elles sont, à partir du moment où elles deviennent objets de guerre et de violence, mais une certaine séparation d'Israël par rapport aux autres peuples est non seulement n'est pas négative, mais est aussi conforme à ce que Dieu leur demande, hein, tu vois. Donc, on peut se demander si cette femme, vivant dans le chaos de ses désirs, n'est pas en quelque sorte emblématique de cette terre chargée de plein de divinités, d'accord? Les exégètes sont prudents. Quoi qu'il en soit, cette Samaritaine porte en sa chair et en son cœur la souffrance de sa génération et des générations qui l'ont précédée. Pouvoir voir dans la Samaritaine plus qu'elle-même comme une sorte de symbole d'une génération. Elle appartient à un peuple artificiel composé de 5 populations Elle habite un pays de gens déracinés qui ont un accès difficile à leur histoire. Elle traîne son désir sur une terre désorientée. Plus largement encore, on pourrait dire qu'elle est l'icône d'une humanité qui cherche à tâtons où et comment satisfaire la soif qui la tenaille. Alors, elle a vécu au moins 5 ruptures matrimoniales ou pseudo-matrimoniales. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Je vais reprendre un langage des jeunes, mais quand il y a une rupture, soit on largue, soit on est largué. Alors, quand on est largué, ça ne peut pas ne pas poser la question, mais est-ce que je suis aimable, moi qui me suis fait abandonner? Et quand on largue, quand on n'est pas capable d'être fidèle à quelqu'un, on ne peut pas ne pas se poser la question, est-ce que je suis capable d'aimer, moi qui ne suis pas capable de m'attacher à quelqu'un? Et donc, de ce point de vue-là, j'ouvre une petite parenthèse, mais la multiplication des expériences amoureuses des jeunes, il y a une fille de 16 ans qui m'a dit, moi j'ai déjà 13 fois changé de voilà, 13 fois 16 ans. Bon. C'est comme ça. Mais le problème, c'est que ça fragilise très fort aussi la conscience de son identité, parce que ça veut dire que 13 fois, elle se pose la question, suis-je aimable et suis-je capable d'aimer? Vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, il faut pouvoir faire le deuil de cette relation qu'on a perdue, qui ça prend un certain temps, et puis les deuils, alors évidemment, quand on est à 16 ans, quand on a eu 13 aventures, bon, il faut voir ce que ça veut dire, ce qui se cache sous le mot aventure, hein. Mais voilà le point, revenons à notre femme là ici de Samarie, ça veut dire que 5 fois elle a une blessure, et est-ce qu'elle a pris le temps aussi de faire un travail de deuil, etc. Parfois les relations se superposent, mais sans qu'il y ait vraiment un traitement des relations cassées. L'être humain, écrit Jean-Paul II, ne peut vivre sans amour. Il demeure pour lui-même un être incompréhensible. Sa vie est privée de sens s'il ne reçoit pas la révélation de l'amour, s'il ne rencontre pas l'amour, s'il n'en fait pas l'expérience, s'il ne le fait pas sien, s'il n'y participe pas fortement. Un texte magnifique, hein, de Jean-Paul II dans Redemptor Hominis au numéro 10, première encyclique. Qu'en est-il pour cette femme? On peut se demander si quelqu'un l'a un jour vraiment choisi et aimé pour elle-même. Si un homme s'est engagé à construire avec elle des projets à long terme et à conclure avec elle une alliance pour toujours. Parce que derrière ces pseudo-nouveaux modèles familiaux, il y a aussi cette question-là. Ainsi, la femme rencontrée par Jésus n'est vraisemblablement l'élu de personne et n'a élu personne. Blessée et sans doute aussi blessante, elle peut soit rechercher ce style de vie pour lui-même, soit s'y résigner, soit s'en affliger. Quand sera-t-il de demain? Ça, c'est la grande question. Quand sera-t-il de demain? La peur de se retrouver seule rôde probablement autour d'elle, avec tout ce que ça implique, ne fût-ce qu'au niveau matériel. Alors, je vous cite ici Coëlette, chapitre 4, versets 8 à 10. « Deux hommes valent mieux qu'un seul, car ils ont bon salaire pour leur travail. S'ils tombent, l'un relève l'autre, mais malheur à celui qui est seul. S'il tombe, il n'a pas de second pour le relever. De plus, s'ils couchent à deux, ils ont chaud, mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il ?» Sans mari, la Samaritaine est peut-être aussi sans enfant, que ce soit par choix ou par contrainte ou par incapacité, peu importe. Mais si je me suis imaginé aussi qu'elle ait des enfants, comment est-ce qu'ils poussent ? Des enfants de 5 hommes, enfin, peut-être de plusieurs hommes différents. Bref, marginalisée, cette femme doit se trouver dans une grande insécurité. L'homme avec lequel elle partage son existence, si elle ne se montre pas à la hauteur, peut la quitter à tout instant. Oui, parce qu'à partir du moment où on n'est pas lié par les liens du mariage, il y a une sorte de. Alors, ça tient tant que la décision des deux conjoints tient, mais leur amour n'est pas inscrit dans pardon, leur réalité matrimoniale, leur réalité de couple n'est pas inscrite dans plus grande qu'elle-même. Donc ça insécurise toujours, commencer par l'enfant. Par ailleurs, si des enfants sont nés dans de telles conditions, donc ils doivent aussi être marqués par une insécurité foncière. Donc après, il y a toute la question, comment est-ce que les demi-frères et les demi-sœurs vivent ensemble, hein? Je ne suis pas en train de faire un tableau catastrophique, hein, mais tout d'un coup, si vous voulez, c'est parce que souvent, dans ces nouveaux modèles familiaux, on les présente comme des inventions de la liberté humaine, etc., qui se valent tous. Après, quand on va compte dans le concret des existences, on se rend compte que c'est tout à fait autre chose. D'accord? C'est vraiment tout à fait autre chose. La situation de cette femme est donc précaire. Et on voit du coup toute la force que représente cette intervention de Jésus qui n'a pas peur d'entrer sur ce terrain de sa précarité dans l'existence. Alors je passe maintenant au point D, désir d'adorer. Donc en fait dans le texte, il y a trois grands passages. Au niveau thématique, hein, le premier passage c'est le jeu des désirs, où le Christ part de l'eau et de la soif pour dire sur le désir de la vie éternelle. Ensuite, il y a la question des maris. Et puis, tout d'un coup, la femme de Samarie engage la conversation sur le terrain de l'adoration, mot qui revient 8 fois dans les versets 21 à 24. Cette demande est très concrète. Où est-ce qu'il faut adorer? Sur le mont Gerizim, haut de 870 mètres, situé à 3 km de Sichem, ou bien dans le temple de Jérusalem. Je vois que tu es un prophète, où faut-il adorer? Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec ce qui vient d'être dit? On parle de la vie matrimoniale, et tout d'un coup, elle parle de l'adoration en esprit, en vérité. Enfin, elle parle de l'adoration. Notre culture ne fait plus le lien, ou fait difficilement le lien, entre le désir de Dieu et le désir du conjoint. Ce sont deux univers qui sont relativement différents. On tend à opérer une césure entre le monde amoureux et le monde religieux. Donc on ne voit pas nécessairement la continuité, on se dit, mais en fait ça n'a rien à voir. Peut-être que la femme est gênée et donc elle veut changer la conversation, sujet de conversation. Bon. Mais ce serait mal connaître la culture de l'époque. Peut-être qu'aussi elle a envie de changer de sujet de conversation. Ça, c'est possible aussi. Mais je ne pense pas que ce soit ce qui préside avant tout. En effet, vous connaissez le psaume, hein, qui parle par exemple comme une biche qui soupire après les eaux courante, ainsi mon âme soupire après toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride altérée sans eau. Après toi languit ma chair, le corps humain est désir, au sens fort du terme. La personne tout entière est désir, y compris dans sa dimension charnelle. Au contact du Christ, la Samaritaine réalise que son désir d'homme-mari n'est pas séparable de son désir religieux. C'est un point qui est intéressant à voir. Avec un instinct spirituel très sûr, elle échappe ainsi à toute interprétation légaliste du décalogue. Le 6e commandement, tu ne commettras pas d'adultère, Exode 20:14, ne plonge-t-il pas ses racines dans le premier qui invite à l'adoration de Dieu? La caractéristique même du décalogue, c'est qu'il est théologal. Il s'enracine dans l'adoration de Dieu. Tu aimeras Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà À ces deux commandements se rattachent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 37. Donc, vous voyez, la femme, avec un instinct spirituel très sûr, réintègre sa question des alliances successives nouées avec différents hommes à l'intérieur de ce grand désir fondamental de l'absolu de Dieu. C'est peut-être une des vérités les plus fondamentales sur le mariage qu'on a un peu oublié, c'est qu'il s'enracine fondamentalement dans le désir de Dieu. L'époux ou l'épouse n'est pas Dieu. Ça doit être épuisant de vivre avec quelqu'un qui vous considère comme un Dieu. Vous devez toujours vivre sur la pointe des pieds à la fin, où on doit avoir mal aux pieds. D'accord ? Donc, je veux dire par là, votre conjoint, aussi génial soit-il, ne pourra jamais pleinement vous combler. Mais il pourra vous combler de façon extraordinaire, à partir du moment où cet amour est intégré, est vécu dans cette dynamique du psaume « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche des lots, mon âme a soif de toi ». Voilà. Vous savez tout cela, hein, mais le Christ permet à cette femme de Samarie de... Enfin, c'est la femme de Samarie qui l'engage sur ce terrain-là, et le Christ la suit tout de suite. Ce lien entre le désir de Dieu et le désir du conjoint. Jésus ne se dérobe pas. Il s'adresse à la Samaritaine en utilisant la dénomination de femme, au verset 21, titre qui possède des connotations nuptiales. Ça, c'est ce que dit Karine Heller. Peu importe, hein, c'est un commentateur. Dans le contexte, en tout cas, de l'épisode, le puits, la demande à boire, le contenu des échanges, en filigrane, en fait, il y a la scène de l'histoire de Osée, prophète du Dieu Sauveur, qui entre en alliance avec Gomère, une femme adultère. Vous vous souvenez de ce fameux petit prophète Osée, le grand prophète Osée. En filigrane, il y a ça. Gomère, une femme adultère et prostituée, figure du peuple adultère, infidèle. Comme Osée, Jésus guide et élève son interlocutrice vers les épousailles auxquelles elle aspire de plus en plus. Donc ça, c'est le cœur du christianisme, en fait. Hein. Le christianisme n'est jamais un étouffement du désir, mais une élévation, une amplification, une purification. Quand vous comparez le visage de Bouddha et le visage du Christ, vous avez deux rapports au désir qui sont totalement différents. Bouddha éteint tout désir en lui, le stoïcisme aussi, jusqu'à un certain point, enfin, traite le désir. Le christianisme, avec le Christ, avec le visage défiguré en croix, c'est le « j'ai soif », c'est le désir à un degré infini. Oui. Et donc, tout l'art de l'accompagnement spirituel n'est non pas d'éteindre le désir, dans une sorte de camisole de chimique spirituelle, si je peux parler ainsi, pseudo-spirituelle, mais au contraire, de le déployer à l'infini. Mais en impliquant une série de sacrifices, n'ayant pas peur des mots, de sacrifices, de purification. Vous savez, de ce point de vue-là, l'extraordinaire encyclique de Benoît XVI sur Eros et Agapé, la première partie, hein, c'est vraiment la question de la purification du désir. Ça, c'est un texte qui est chrétien jusque dans cette dernière fibre, vous voyez, où l'agapé, le désir purifié, n'est jamais, enfin, le désir pur, entre guillemets, n'est jamais sans éros, vous voyez, sans désir. Voyez. Donc le christianisme est une religion du désir. Et c'est vraiment une religion de l'éros, de l'éros qui doit maturer, qui doit suivre un itinéraire et qui doit prendre la forme de l'agapé, mais sans renoncer à l'éros. Benoît XVI va jusqu'à affirmer, audace extraordinaire, qu'il y a de l'éros en Dieu. Mais en dehors du temps, puisque Dieu est éternel, mais enfin pas en dehors du temps, mais dans l'instant même de son éternité. Donc, c'est un rapport au désir qui est tout à fait différent dans le christianisme et dans les autres religions. La question, évidemment, c'est que le désir doit être libéré de toutes ses idolâtries. Il y a un travail sur le désir. Ça, c'est la grande œuvre de notre vie à tous ici. Hein. C'est travailler nos désirs. Non pour les étouffer, mais pour leur permettre de se déployer à une intensité et à une ampleur démesurée. Hein. J'ai pas peur du mot. Démesurée. La grâce de Dieu est là pour cela. La charité est la forme de toutes les vertus, comme dit saint Augustin, et puis saint Thomas, et puis c'est toute une tradition. Qu'est-ce que ça veut dire que la charité est la forme de toutes les vertus? C'est-à-dire que la charité, c'est justement ce désir en Dieu qui nous proportionne à Dieu lui-même. Voyez. Donc ici sur Terre, notre objectif, c'est d'élargir le désir. Et c'est ce qui se passe chez cette femme-là. Et sans doute qu'elle n'avait pas réalisé que toute la recherche de ces hommes, Marie, était en fait mue par ce désir extraordinaire. Alors, j'avance. Hein, vous retrouverez, pour ceux qui le souhaitent, le texte de façon beaucoup plus précise dans le livre. Le Christ, très vite, lui fait cheminer à l'intérieur de ce désir et va jusqu'à révéler qu'il est le Messie. Je le suis. Ça, c'est impressionnant. Et il va même, certains exégètes le disent, il va même jusqu'à révéler sa divinité. Donc, il y a tout un cheminement. Le Christ se révèle lui-même comme un juif, verset 9, plus grand que notre père Jacob, verset 12, prophète, verset 19, Messie et Christ, verset 25. Pour saint Pierre, il aura fallu plusieurs mois, hein, ou plusieurs années même, peut-être. Samaritaine, première rencontre, ça suffit. Enfin, c'est quelque chose de fabuleux. Hein. La grande révélation de l'être du Christ, c'est à une femme qui est faite ici. Et une femme qui vivait sans doute dans un certain désordre intérieur. Quelque chose de fascinant de voir cela. Il lui dit, Jésus, moi, je suis celui qui te parle. Verset 26. Saint Jean aura besoin beaucoup plus de temps que cette femme-là pour percevoir tout cela. Et si le Christ le lui révèle, c'est que cette femme est disponible pour l'entendre. C'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé, cela. C'est-à-dire que le Christ se donne, il se révèle, il dit qu'il est. Je suis ego eimi, c'est la grande révélation que Dieu a faite de lui-même dans le buisson ardent. Tous les exégètes ne sont pas d'accord sur cette révélation de la messianité de Jésus, mais enfin, en tout cas, on ne peut pas mettre de côté cette lecture-là. Elle est possible, d'accord, dans le texte. Je suis. Moi, je suis qui te parle. Sans doute faudra-t-il attendre de longues années à la femme pour réaliser ce qui lui est arrivé ce jour-là. Dans la banalité de son quotidien, le Christ s'est manifesté à elle en lui offrant l'esprit en abondance ainsi qu'un accès intime au Père, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, il faudrait écrire ça avec un E majuscule et V majuscule, parce que c'est l'Esprit Saint et le Christ qui vient de se révéler comme vérité. Alors, cette beauté foudroyante de cette rencontre ne doit pas faire perdre de vue sa réalité historique. Saint Jean évoque une situation concrète dont la profondeur échappe à l'œil non exercé. Nous tous, nous avons cette expérience-là. Parfois, on assiste à des choses extraordinairement belles et on le voit, mais même si, mais quand on raconte, à la limite, les gens ne le croient pas. Mais pourtant, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est vrai. Et c'est dans cette singularité de cette rencontre que Jean, évidemment, contemple dans toute son épaisseur spirituelle et métaphysique, hein, inspiré sous l'inspiration, mais il ne faut pas perdre son enracinement historique. Vous voyez? Qu'il soit marié ou célibataire, qu'il vive dans telle ou telle situation, le lecteur se rend compte que les questions posées à cette femme du Moyen-Orient lui appartiennent également. Que nous soyons hommes ou que nous soyons femmes, nous sommes tous un peu samaritaines sur le bord. Enfin, je ne sais pas, peut-être pas vous, mais moi oui. D'accord. On est tous un peu samaritaines sur les bords. Et même peut-être plus que sur les bords, dans le fond. De même en est-il pour les désirs du lecteur, ses doutes, son errance, son ouverture de cœur, sa générosité, son enthousiasme. À la suite de cette femme du 1er siècle, il peut lui-même s'entretenir avec le Christ, source et sourcier. Le Christ qui est source et sourcier. Il fait jaillir la source et qui est lui-même la source. La femme devient jaillissante en vie éternelle. Alors, je termine avec un avenir plein d'espérance. Le texte dit que la femme laisse là sa cruche. C'est le même mot qui est utilisé avec les vases pour Cana, hein, au chapitre 2, verset 6. Elle est devenue, permettez-moi ce jeu de mots un peu facile, elle est devenue elle-même une cruche, d'accord, remplie d'eau vive. Hein, et elle va expérimenter une fécondité tout à fait inattendue. Il va dire, elle va retourner dans son village, dans sa ville, réintégrer la société. Et elle va dire, venez et voyez. Verset 29. Venez et voyez, ça ne vous dit rien ? Ce sont les mêmes mots, sans le savoir, elle prononce les mots que Jésus avait adressés à ses premiers disciples au début de l'évangile. Elle est devenue un autre Christ, si on peut parler ainsi. Venez et voyez. C'est bouleversant quand même. Hein, l'itinéraire de cette femme sans mari est celle d'une météorite, hein, d'une comète. Animée par l'esprit, elle est à présent étroitement associée à la mission du Christ vérité, dont elle utilise les verbes et la grammaire. Venez et voyez. Elle contribue ainsi à engendrer des hommes et des femmes de sa région à la fois. Un bon nombre de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme. Vous vous rendez compte, cette femme qui était peut-être mise sur le côté devient médiatrice de salut pour tous les gens de la ville. Ça, c'est quand même bouleversant. Ça doit nous faire réfléchir. Bon. De cette fécondité inattendue, jaillit de quoi ? Mais de cette rencontre nuptiale de cette femme avec le Christ. Je vais pas utiliser le mot nuptial plutôt que conjugal, parce que ce n'est pas un mariage comme tel, mais c'est elle est rentrée à l'intérieur des noces nouvelles, de l'alliance nouvelle éternelle. La référence à peine voilée à un épisode de l'Ancien Testament en offre un élément supplémentaire pour interpréter le récit en ce sens. Vous vous souvenez de Rebecca ? Rebecca, c'est la femme de... de Isaac. Elle n'était pas encore la femme d'Isaac. Hein. Rebecca descend à la source et emplit sa cruche. Un inconnu aurait en réalité le serviteur d'Abraham, qui il avait envoyé Abraham un serviteur pour son fils, lui demande à boire et lui offrit un anneau pour le nez ainsi que les deux bracelets pour le bras. Alors, je cite, en Genèse 24, 28, 31, « La jeune fille courut annoncer chez sa mère ce qui lui était arrivé. » Or, hein, c'est comme la Samaritaine, elle court. « Or, Rebecca avait un frère qui s'appelait Laban, et Laban courut au dehors vers l'homme à la source dès qu'il eut vu l'anneau et les bracelets que portait sa sœur et qu'il eut entendu parler sa sœur Rebecca, dire, « Voilà comment cet homme m'a parlé. » Il alla vers l'homme et lui dit, « Viens, béni du Seigneur, pourquoi restes-tu dehors ?» Ainsi, Rebecca devient-elle l'épouse du fils d'Abraham, Isaac, l'heureux héritier de la promesse. Analogiquement, dans le récit joanique, Jésus, le Messie, celui qu'on appelle Christ, verset 25, plus grand que notre père Jacob, verset 12, c'est-à-dire plus grand que le fils d'Isaac, entre en alliance avec une fille de Samarie, marquée par les épreuves de l'existence. Et voilà ce qui arrive, il y a une fécondité tout à fait inattendue et une nouvelle filiation qui lui est donnée aussi, où elle fait l'expérience d'adorer, lui révéler le Père. Hein. C'est, on vient l'heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Donc, si vous voulez, il y a, c'est comme chez toujours, chez Saint Jean, il y a une sorte d'enchevêtrement de différents registres qui montrent une richesse de relations. Il y a le registre des épousailles, avec une fécondité qui est donnée, et le registre aussi de la filiation, c'est l'expérience d'être une fille bien-aimée du Père. Alors, son futur, évidemment, tout n'est pas résolu pour autant, mais elle peut voir maintenant son futur avec un autre œil, un autre dynamisme, dans le dynamisme de l'adoration filiale à laquelle elle a été introduite. Au fil des jours, des semaines, des mois, des années, elle aura assumé, ordonné, affiné, purifié, déployé son désir d'être aimée et d'aimer. Voilà, elle devra l'inscrire dans le temps et la durée, consolider le mouvement intérieur reçu, mûrir et mettre en œuvre le choix dont elle a bénéficié dans le concret de son existence. Voilà, je vous remercie de votre... Bon, vous voyez, on a fait un parcours gigantesque hein, dans ce cours, hein, cet itinéraire de cette femme, et qui, me semble-t-il, nous introduit à sa façon, joyeusement, à la fête de Noël. Et je vous souhaite donc à chacun et chacune d'entre vous, ainsi qu'à vos familles, un bon temps de Noël. Merci beaucoup.